Bien, bonjour mesdames, messieurs, je suis heureux de vous revoir. Donc merci à ceux qui reviennent et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Nous allons donc continuer cette année à un nouvel examen de la partie la plus ancienne de l'Avesta, qui est en même temps le plus vieux document iranien connu et à mon avis de très loin le plus vieux, puisque probablement plusieurs siècles le sépare de la construction de Persépolis, hein, qui est pourtant comme le monument de fondation de la civilisation iranienne. Dites-vous bien que nous sommes ailleurs et longtemps avant. Bien, alors, le livre que Éric Pirard, qui est d'ailleurs dans la salle, et moi avons consacré au texte vieil avestique, dont les gathas sont l'une des deux parties, le dernier volume est paru en 91, donc si ce livre avait été un roman de KPDP principalement, ce cours aurait pu s'intituler 20 ans après. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais envisager les gathas avec vous durant ces années, parce que je me proposais de réaliser trois ajustements. D'abord, premier de mes soucis, c'était tenir compte de ce qui avait changé dans notre vision des gathas. Nous avions défendu l'idée dans l'introduction, moi surtout, il est peut-être plus innocent que moi à cet égard, n'est-ce pas, c'est que nous pensions que la division des gathas en chapitres, il y en a 17, était extrêmement tardive, que cette division était tout à fait secondaire, artificielle et tardive. Les études qui ont été menées depuis lors montrent que ce n'est pas le cas. Pourtant, je suis plus convaincu encore qu'à cette époque que si effectivement les haïtis présentent une certaine homogénéité littéraire, correspondent dans une certaine mesure à une division naturelle, eh bien, les gathas, elles aussi, sont unitaires. Elles sont unitaires. Elles représentent une unité littéraire qui est tissée petit à petit par chaque chapitre, par chaque haïti. Donc, on peut considérer que les haïtis sont homogènes, mais qu'elles ne sont pas indépendantes et qu'elles tissent l'unité conceptuelle des gathas de manière progressive. Alors, la deuxième perspective dans notre nouvelle conception des gathas, c'est que les gathas, qui sont un très vieux texte, comme j'ai commencé par vous le dire, et c'est que ces gathas sont un texte de récupération. C'est un texte de récupération dont les arrangeurs du Yasna récent ont décidé d'introduire au cœur de leur récitatif. C'est un texte récupéré des temps anciens dans un Yasna, qui est lui-même un arrangement très ancien, mais qui est signifiant. Cela aussi, c'est une nouvelle perspective. Le Yasna que nous possédons n'est pas un débris, ce n'est pas une ruine. Ce n'est pas ce qu'il reste d'un texte qui a subi un naufrage. Ce n'est pas un fragment hasardeux. Donc, c'est un texte signifiant. Alors, le deuxième de mes objectifs était de mettre les choses au point et de retrouver peut-être un certain accord avec nous-mêmes, avec ce que nous avons pu formuler dans notre analyse des gathas d'il y a 20 ans. Il fallait pour cela vérifier certaines choses, vérifier ce qu'était le rite, ce qu'était l'eschatologie, qui étaient les hommes dont le nom est mentionné dans le texte, que représentent leurs adversaires qui tiennent une si grande place dans le texte, et aussi quels sont leurs dieux, y en a-t-il un, y en a-t-il deux, ou y en a-t-il plusieurs, car cela même n'est pas clair. Alors, c'était le rite d'abord, nos positions étaient les suivantes. Nous avons fait, c'était peut-être la grande caractéristique de notre livre d'il y a 20 ans, nous avons voulu voir dans les gathas un texte rituel, un texte liturgique. C'est ce qui a été à l'époque le plus critiqué dans notre travail parce que nous oublions comme on me l'a répété souvent parmi les collègues dans le monde, ben nous oublions leur message, qui était un message éthique au bénéfice d'une filière liturgique que nous voulions essentiellement reconnaître dans le texte. Il fallait donc vérifier si cette conception des gathas était restée la nôtre. L'eschatologie, qui était un problème beaucoup plus gênant, parce que, comme je vous l'ai exposé la dernière fois, nous étions partis, notre idée de départ était de sous-estimer l'eschatologie comme c'était alors la tendance scientifique du moment quand nous nous sommes mis au travail. Mais en travaillant sur ce texte, nous avons progressivement changé d'avis et à cet égard, notre travail porte les marques d'un peu d'incohérence et d'un peu de contradiction. Mettre les choses au point de ce point de vue-là, donc. Alors, les hommes. Le texte part encore d'une certaine... notre analyse de l'époque accorde encore à ces hommes un certain degré d'historicité. N'avons-nous pas été trop timides? Je serai tout aussi timide cette année, comme vous le constaterez bientôt dès la leçon prochaine, mais d'une autre manière. Enfin, les adversaires que nous avons peut-être un peu trop négligés, et aussi les dieux. Toutes ces vérifications, je comptais, la première année, l'année dernière, vérifier le rite, vérifier l'eschatologie et vérifier les personnalités humaines qui sont mentionnées dans le texte. C'était mon programme. Nous avons pris du retard, hein, puisque nous n'avons vérifié que les deux premiers items, le rite et l'eschatologie, qui sont d'ailleurs liés. Nous allons reprendre avec les hommes, mais nous n'avons pas perdu notre temps néanmoins. Nous nous sommes livrés à ce que l'on peut donc appeler une archéologie du rite dans la perspective de l'Avesta et du Mazdéisme, puisque nous avons un texte, un document plus ancien, à l'intérieur d'un document lui-même ancien. Et nous savons plus avec une certaine certitude, avec un certain degré d'assurance, ce qu'est le rite du Yasna récent, comment reconstituer ce qui était le rite gathique pour les auteurs des gathas eux-mêmes, pour ceux qui ont composé les gathas, à travers ce que l'Avesta récent leur fait dire, leur fait faire aussi dans le cursus rituel. Alors, rappelez-vous, hein, je commencerai par faire, avant d'introduire aux problématiques qui vont nous retenir, notre vérification du rite a été, je pense, relativement fertile. Là, il fallait partir du vocabulaire. C'est une leçon que j'ai personnellement retenue du cours de l'an dernier. Il y a tout intérêt, nous avons tout intérêt, car ce n'a été bizarrement jamais fait, à vérifier les mots du point de vue de la place qu'ils occupent dans le texte. Mais attention, c'est relativement original, ce n'est pas aussi simpliste que j'ai l'air de le dire, puisque cela doit se faire dans le cadre d'un yasna général signifiant, d'une part, et d'autre part, dans le cadre de gathas unitaires, et non pas de 17 poèmes séparés, mais de 5 poèmes. De 5 poèmes au lieu de 17. Donc la situation des mots, leur attestation, la manière dont ils sont introduits dans chaque gatha particulière revêt une certaine importance. Nous avons entrepris cette vérification pour le vocabulaire du rite. Tous les mots qui désignent un acteur ou une phase du rite, nous en avons fait le relevé et nous avons fait une constatation, je crois, fort importante, c'est que ce vocabulaire tend à se concentrer dans la partie finale de chaque gatha. Dès cet instant, il fallait se limiter à l'examen d'une seule gatha, la plus longue, la première, la gatha Ahunavaiti, qui représente les chapitres 28 à 34 du yasna. Le vocabulaire du rite dans la gatha Ahunavaiti se concentre entre le yasna 33.5 et la dernière strophe, le yasna 34.15. Donc, il s'étend sur les deux derniers chapitres. Cela fait 25 strophes, c'est-à-dire exactement le quart de la gatha, c'est le dernier quart. Alors, le cas de l'Agatha Ahunavaiti est pour nous extrêmement éclairant parce que c'est un texte plus explicite que les autres. Aucune autre gatha ne nous fournit un témoignage aussi explicite sur la nature du rite. Et ce témoignage, nous le devons à trois mots. Trois mots qui sont dans les gathas des Apax. Ils ne sont attestés qu'une fois. Ce sont des mots que nous connaissons bien. Ils ne posent pas de problème. Ils ont un équivalent sanskrit. Ils sont attestés dans le reste de l'Avesta. Mais ils ne le sont qu'une fois. C'est dans cette portion du texte de la gatha. Ces trois mots-là sont extrêmement significatifs. C'est le mot zautar, testé une fois, indien hotar. C'est un mot important, c'est le directeur d'une cérémonie sacrificielle. L'homme qui parle, l'homme qui dit je, dans la strophe 33.6, cet homme-là est le prêtre officiant principal. Nous sommes donc en situation, nous sommes assurés, grâce à ce mot, que nous nous trouvons devant les acteurs d'une cérémonie sacrificielle. Ça ne me paraît pas discutable. On ne peut dire le contraire, on l'a fait durant longtemps, qu'en dépouillant Zautar de sa signification technique. Il dit voir simplement le prêtre. L'autre mot, c'est le mot drauna, la ration rituelle. Donc, on donne au dieu une ration rituelle. C'est l'indien dravinas. Seule attestation. Et l'autre, c'est le mot miasda, l'offrande solide, par opposition à l'offrande liquide, indien mieda. C'est un vocabulaire traditionnel dans le domaine indo-iranien, mais l'attestation de ces trois mots, une seule fois, dans la seule gatha Ahunavaiti, présente un intérêt tout à fait particulier. Or, ceci nous permet de conclure que les gathas, une phase récitative de la gatha Ahunavaiti qui se situe ici, correspond à l'offrande du sacrifice sanglant. Vous savez qu'on avait nié pendant très longtemps la pratique du sacrifice sanglant dans la partie la plus ancienne du mazdéisme. Non, elle est pratiquée. D'une certaine façon, il y a toujours dans la conception que nous avons des choses un certain degré de hasard, car cette remarque, à partir du passage dont je vous parle ici, et qui se situe dans les strophes 34.1 à 5 ou 7, on peut discuter, de la gatha, donc dans le dernier chapitre, avait été relevée en 1964 par Helmut Humbart. Helmut Humbart a été le premier à en faire la remarque, en 1964. Mais vous, rappelez-vous, peut-être faut-il que j'explique pourquoi cette date est un peu particulière et pourquoi cette constatation n'a peut-être pas reçu l'attention qu'elle méritait. 1964, Humbart a publié son analyse centrale des gathas en 1959. Pas la grande édition si innovante des gathas par Helmut Humbart, c'est 1959. Donc, cette remarque n'est pas intégrée à son livre de 1959. C'est une découverte ultérieure de Humbart. De surcroît, il la publie dans un ouvrage véritablement confidentiel, un petit livre qui était à cette époque avec sur du très mauvais papier, tiré à Bombay, en hommage à un prêtre zoroastrien de Bombay. C'est un ouvrage qui n'aura jamais l'Unvala Memorial Volume, un ouvrage qui n'aura qu'une très mauvaise diffusion. Mais il nous appartient, bien sûr, de le citer comme il le mérite. Et bon, je tenais à signaler le caractère pionnier de l'analyse de Humbart à cet égard. Et Humbart, d'ailleurs, dans tout le reste de sa carrière jusqu'à nos jours, est resté fidèle à cette conception parfaitement justifiée par le texte que la pratique du sacrifice sanglant, comme celle de Hauma, d'ailleurs, était une pratique courante dans le mazdéisme le plus ancien. Donc, je signalerai aussi que l'accent sur ce passage à l'aide du Yasna 58 a été a été remarqué dans un article d'Éric Pirard, qui lui aussi ultérieur à notre analyse des Gata dans le courant des années 90. Et puis enfin, je vous ai entretenu de l'importance à cet égard d'un chapitre du Yasna récent, le Yasna 58, qui par les citations qu'il fait du Yasna 34 et du passage concernant le sacrifice sanglant, montre que c'était dans le cours 2010-2011, je crois, montre que les rédacteurs de l'Avesta récent, les arrangeurs de l'Avesta récent, étaient parfaitement conscients de ce que présentait à l'origine le Yasna 34 dans le sacrifice gathique. Il nous restait, bien sûr, à élucider à quoi correspondait le reste de ce que j'ai appelé le moment sacrificiel. Le moment sacrificiel, c'est-à-dire ce passage où le vocabulaire du rite se trouve finalement concentré dans la Gatha ou Navaiti. 33.5 à 33.15, le sacrifice, ce qui concerne le sacrifice sanglant se situe dans les strophes qui vont de 34.1 à 5 ou 7. Il nous reste, ça représente le quart du moment sacrificiel. Il est évident qu'il se passe quelque chose avant et aussi qu'il se passe quelque chose après. Et nous avons tenté de le reconstruire. Ce qu'il se passe avant, d'abord, eh bien, j'ai formulé l'hypothèse que c'est le moment de l'offrande haomique. Le moment de l'offrande haomique, quels sont mes arguments ? La pratique aussi de l'offrande de soma a été aussi considérée comme une pratique interdite par le zoroastrisme primitif. Humbach avait été revenu sur cette idée, mais sur la base du sacrifice sanglant. Il avait procédé par analogie, au fond, puisque le sacrifice sanglant est pratiqué, il n'y a pas de raison aussi que le sacrifice, que l'offrande de Haoma soit interdite, elle était elle aussi. Donc, il n'avait pas d'argument précis. Mon argument pour reconnaître dans le Yasna 33.5 à 14, le moment de l'offrande de Haoma, le soma indien, n'est-ce pas, est de même nature que le sacrifice sanglant, à l'exclusion ici du vocabulaire. Par un jeu de citations, n'est-ce pas, dans le Yasna récent, c'est le Yasna 58 qui correspond, et c'est toujours le cas dans les rites d'aujourd'hui, qui correspond à la fin de la crémation de l'offrande carnée dans le feu. Le Yasna 58 correspond, au fond, à la fin de cette phrase du rite qui est celle du sacrifice sanglant. Or, quelque chose d'analogue concerne le Haoma. Il y a dans les rites d'aujourd'hui trois offrandes de Haoma, trois. Celle du Yasna 9, le Haoma n'est pas préparé, il est bu par le prêtre. Celle du texte que l'on appelle le Homast, qui survient un peu plus tard, 22e chapitre du Yasna. Alors, le Haoma est préparé et, semble-t-il, on n'en fait pas usage. Il est en quelque sorte conservé. Mais il y a aussi un troisième pressurage qui est rapporté dans les années 90 par un haut dignitaire zoroastrien de Bombay, le Dastur Kotwal. Le Dastur Kotwal a fait une très intéressante description de ce qui se passait durant l'Yasna, et son texte nous apprend qu'un troisième pressurage de Haoma commence avec le dernier vers du Yasna 33.4. Yasna 33.4, avec le dernier vers. Les mortiers commencent à fonctionner à ce moment-là. C'est juste à l'ouverture, 33.5, hein, de ce que nous avons appelé le moment sacrificiel. C'est le début. Alors, pendant un certain temps, il va y avoir un jeu complexe, très compliqué, je ne sais pas cela qui va nous retenir ici, de transvasement, de filtrage, de nettoyage, etc. Et enfin, il y aura, lors du Yasna 33.11, le dernier rimistiche du Yasna 33.11, Lors de la récitation de ce dernier hémistiche, il y a une libation, donc on verse à terre, une libation de Hauma à l'est du feu, sur le sol. À partir de ce moment, ce qui cristallise l'opération haumique en cours, c'est la demande d'un échange auditif et visuel avec le monde des dieux. Les citations du Yasna 28, le Yasna 27, juste avant l'ouverture du corpus gathique, procèdent à la manière du Yasna 58. La seule différence, c'est que le Yasna 27 précède, tandis que le Yasna 58 suit. Le Yasna 58 est une clôture, le Yasna 27 est une ouverture. C'est l'ouverture du texte gathique. Eh bien, le Yasna 27, qui représente le deuxième pressurage de Hauma, le texte est un texte en avestique récent, est essentiellement fondé sur l'utilisation du Yasna 33, 11 à 14, donc le passage du troisième pressurage, ce qui est la preuve aussi que les rédacteurs de l'Avesta récent, non seulement ceux qui ont composé le texte, ceux qui ont arrangé le Yasna, savaient pertinemment bien que, en tout cas, du Yasna 33-11 au Yasna 33-14, il y avait offrande de Hauma. C'est un fait qui était encore connu des arrangeurs du Yasna récent. Le passage qu'il cite, Yasna 33, 11 à 14, sont un texte qui met l'accent sur un mot qui est d'ailleurs aussi le nom d'une divinité, le dieu Sraoucha. Le dieu Sraoucha, c'est un dieu qui représente d'une façon ou d'une autre l'audition, et son nom est évidemment, l'apparition de son nom est évidemment dictée par le fait que l'un des aspects de l'opération en cours, c'est attirer l'attention des dieux sur le bruit que font les mortiers, et qui effectivement, si vous assistez à un rite effectif, n'est-ce pas, ce bruit est extrêmement accentué. N'est-ce pas, le prêtre qui actionne son mortier de telle façon le bruit soit très clairement perceptible, en considérant que les coups du mortier sont autant de coups infligés aux démons. Un autre phénomène aussi qui accompagne cette offrande de Hauma, ce sont les notations qui décrivent la progression de la lumière diurne, la protection de la lumière diurne. Dans les strophes 12 à 13, on assiste de manière aussi semi-explicite, mais beaucoup plus explicite que dans les autres gathas, au lever du soleil, d'une part, puisque l'action que l'on demande au dieu Ahura Mazda, ou bien tout au moins à un Ahura indéterminé, c'est Uz'ar, le verbe Uz'ar, qui est le verbe même du lever du soleil, en même temps que cette divinité à laquelle on s'adresse reçoit l'épithète de « au vaste regard », Voru Chashani, qui est une épithète solaire usuelle aussi, Uru Shakshas, dans le Rig Veda. Bien, alors, la strophe suivante, la strophe 13, se termine par la demande faite à l'entité Armaïti. C'est la plus ancienne et la plus importante des entités féminines, quatrième des quatre grandes entités divines qui entourent Ahura Mazda, et qui, nous le savons, grâce à un texte qui le dit ouvertement, nous savons que Armaïti, qui est la pensée adaptée, c'est une allégorie de la pensée, est aussi dans l'ordre de l'existence matérielle, la terre. Donc, lorsque le récitant s'adresse à cette entité féminine qui est Armaïti, il s'adresse à la fois à une allégorie de la pensée, avec ce qu'elle représente à la fois dans le monde des dieux et dans son monde à lui, qui est le monde du rite, mais il parle aussi à la terre, Or, il lui demande à Harmaïti de propulser, comme avec une fronte, c'est le verbe d'Aksh, de propulser les daïna, les visions. Et je vous ai exposé à cet égard les raisons que nous avons de croire que la daïna, comme Harmaïti est à la fois la juste pensée à la terre, la daïna serait à la fois la vision, mais aussi l'aurore. Et les affinités que présente la personnalité de la daïna mazdéenne avec l'aurore védique sont bien connues, mais nous allons y revenir très rapidement. Donc avec ce lever du soleil, ce lever de l'aurore qui monte de la terre, qui est propulsé par la terre, on voit apparaître, c'est la première fois que les notations le rendent explicite, le monde matériel. Le sacrifiant a un corps, et un corps qui grandit, parce que l'ingestion de Haouma fait grandir le corps. C'est tout au moins la sensation que l'on a. On voit apparaître aussi l'univers féminin, qui était absent jusque-là des Gata. Univers féminin représenté, bien sûr, dans le monde des dieux par Harmaïti, dont nous venons de parler, aussi une déesse, Ashi, qui est aussi une des entités féminines dans la suite d'Harmaïti. Les entités féminines font leur apparition. Malheureusement, nous ne comprenons pas bien en raison du caractère obscur de la strophe où Ashi apparaît. Donc le monde féminin fait son apparition. Les aurores elles-mêmes sont une partie extrêmement notable de ce monde féminin, peut-être désignées dans le texte comme les belles vivantes et impermanentes, hein, les belles vivantes qui ont été, les belles vivantes qui sont et les belles vivantes qui seront, les belles vivantes ou les belles victorieuses, il y a ambiguïté de la racine. Mais en tout cas, il y a ces déesses impermanentes, soit elles sont, soit elles ont été, soit elles seront, comme les aurores, hein, dont le Rig Veda nous dit bien qu'il y a celles qui se lèvent, bien sûr, mais aussi celles qui se sont levées auparavant, celles qui se lèveront. L'aurore est par excellence la figure de l'impermanence, hein, qui est ici introduite dans le texte, n'est-ce pas ? Et ce corps qui vient d'apparaître et qui est celui du sacrifiant, il sera immédiatement, de manière symbolique, offert comme offrande aux dieux. Et cette offrande du corps matériel qui est offert aux dieux termine la Haïti 33. Donc elle nous laisse à l'oreille du Yasna 34. Où va avoir lieu l'offrande de chair, l'offrande carnée, c'est pas si bien qu'en définitive, il y a à la jointure des deux Haïti la rencontre entre deux victimes, la victime symbolique qui est le sacrifiant lui-même et la victime réelle qui est bien sûr l'animal sacrificiel dont le nom sera prononcé plus tard, la vache pleine, dont le nom sera prononcé plus tard dans le texte. Bien, alors, nous avons vérifié l'eschatologie, mais nous ne quittons pas le domaine du rituel pour autant, parce que dans la mesure où les choses se présentent à la suite, nous pouvons nous poser la question de savoir si le problème de l'eschatologie n'est pas en définitive là le problème de la finalité du sacrifice. Hein. À quoi sert le sacrifice ? Quel rentement veut-on qu'il ait, n'est-ce pas ? À quoi sert-il ? Qu'attend-on de lui ? Eh bien, est-ce que la réponse ne se situe pas dans l'eschatologie ? C'est évidemment ce que nous pensions, pas lorsque nous avons, Eric et moi, terminé notre analyse des Gathas, c'est que, bon, s'il était important, le sacrifice avait pour but d'assurer d'une manière ou d'une autre l'immortalité. Il y a deux manières dans le mazdéisme d'envisager l'immortalité. La première manière est individuelle. Hein, chaque homme, lorsqu'il meurt, doit pouvoir gagner le paradis, ça va de soi. Ça, c'est l'eschatologie individuelle. Il y a une seconde manière qui est l'eschatologie collective, car dans la doctrine de l'Avesta récent et dans toutes les expressions ultérieures du mazdéisme, plus de nos jours, naturellement, parce que ce type de doctrine, par la force des choses, est appelé à être démenti, n'est-ce pas ? Mais, au fond, il y a on attend la fin du monde, la résurrection des corps et l'installation d'une immortalité définitive qui attend l'humanité tout entière et les choses. Donc une eschatologie collective. Alors, le texte des Gatha, il est extrêmement facile de lui refuser toute eschatologie. C'est une chose que Humbart a tenté de faire dans son livre de 1959. Nous voulions aussi ne pas trop mettre l'accent sur cet aspect de la doctrine que nous ne trouvions pas exprimé de manière très fréquente dans le texte des Gatha. Et effectivement, il faut signaler immédiatement, peut-être bien que à la fin de ce... Mais je n'en suis pas sûr du tout. À la fin de cette série de leçons, nous serons amenés à changer d'avis, mais l'eschatologie collective, nous allons considérer d'emblée qu'elle n'est pas repérable, du moins. Elle n'est pas repérable dans ce qui est pour nous raisonnablement observable dans le texte gathique, ce que nous comprenons suffisamment bien pour en tirer les conclusions. L'eschatologie individuelle, elle est présente. Et notre vérification nous a appris qu'elle était présente d'une manière extrêmement stylisée, extrêmement conventionnelle. Une strophe par Gatha, ce qui est très souvent le cas, nous en avons fait la constatation. Il s'agit d'un motif obligé. Une strophe par Gatha doit faire allusion, et elle le fait de manière très colorée pour une fois. Les Gatha ne sont pourtant pas un texte très coloré. Cette manière de parler abstraite fait que nous n'avons pas de choses extrêmement romanesques à nous mettre sous la dent, mais pour l'eschatologie individuelle, là, nous avons au moins ce détail. Une strophe, donc, fait allusion au sort post-mortem des damnés. On nous dit qu'ils reçoivent de la mauvaise nourriture, qu'ils sont les hôtes dans la maison de la tromperie, que ce qui les attend, c'est le Moélas, etc. Hein? Mais une strophe par Gatha. Le sort des achavanes, le contraire, le sort des bienheureux, lui, est beaucoup plus discret. Une seule strophe, c'est dans la troisième gatha, elle se dispose en diptyque avec ce que j'ai appelé les strophes de la damnation. Alors, avant de nous expliquer ce qui va arriver aux damnés, une strophe fait allusion tout de même de manière beaucoup plus abstraite, il n'y a plus de couleur ici, à ceux qui attendent, ceux qui ont bien agi, selon le rituel a été correct. On dit voilà, Ahura Mazda, ce que tu gardes dans ta demeure, c'est l'hommage qui a été rendu conformément à la notion de l'agencement. C'est donc, on est bien sûr dans le registre du discours abstrait, mais très clairement, il y a une mise en opposition entre les deux choses. Alors, nous nous sommes posé la question de cette eschatologie en rapport avec le rite, en rapport avec l'ultime développement du moment sacrificiel, c'est-à-dire ce qu'il se passe, n'est-ce pas, ce qu'il se passe dans les dernières strophes du Yasna 34, dans la finale de la Unavaiti Gatha. Or, on voit se dessiner dans ces strophes, dans les toutes dernières strophes de la Gatha, n'est-ce pas, à partir de la strophe 12 exactement, une image comportant une quadruple articulation. L'image, c'est celle des chemins. Il y a des chemins. Le nom, il y a deux noms, bon, j'en donne un seul, c'est le nom Pat, le chemin. Et avec les chemins suscitent naturellement un certain nombre de verbes de mouvement, hein, qui désignent le mouvement que l'on peut faire sur les chemins en question. Ce chemin est utilisé par la Daïna, c'est le deuxième motif, c'est la deuxième articulation de l'image, la Daïna. C'est la Daïna qui progresse, qui va sur ses chemins. Donc la vision, je ne traduis pas parce que c'est une forme de vision. Cette Daïna, cette vision, elle appartient à des personnages qui sont définis comme des Saoxiant. Ils ne vont pas de raisons suffisantes de douter, je pense, après surtout l'usage qui est fait du mot dans l'Avesta récent, que c'est un nom possible des sacrifiants. Appartient au Saushyant. Que veut dire le mot? Je n'ai pas traduit non plus, parce que comme Dainas la pose naturellement un problème de sémantique. Il y a dans, c'est un présent, c'est un présent en notation future, ça veut dire être sur le point de, si vous voulez, et le verbe de base, le verbe sous et le verbe gonfler. Donc c'est celui qui est être sur le point, ceux qui sont sur le point de gonfler. Et le quatrième élément de l'image, c'est le mishda. Nous pouvons traduire ici, nous n'avons pas beaucoup de problèmes sémantiques, c'est le prix de victoire. Car c'est cela qui se trouve à l'aboutissement du chemin. Étant donné que parmi les verbes de mouvement que suscite le nom des chemins, il y a celui qui consiste à aller en char, avec tout le vocabulaire de l'attelage, hein, on attelle le char, etc., on voit bien que l'image se réfère à une sorte de course qui est récompensée lorsqu'on la gagne par un prix qui est le Mishda. Alors, il nous manque un détail pour bien comprendre toutes les résonances de l'image dans la Gatha Ahunavaiti, mais ce détail nous est donné par la même articulation, encore une fois, cette articulation, une fois dans chaque Gatha. Visiblement, les auteurs des Gatha travaillent avec des motifs obligés. Ils doivent passer nécessairement par un certain nombre de conventions, faire allusion à un certain nombre d'éléments. Et la configuration quadriangulaire que nous avons ici apparaît une fois dans chaque gatha, avec plus ou moins d'éléments. Parfois un élément manque, parfois c'est l'un élément qui manque, parfois l'autre. Mais en général, nous avons le même cadre. Et la Gatha Ushtavaiti, qui est la deuxième, et qui d'ailleurs donne une image plus complète peut-être que la Gatha Ahunavaiti de l'image en question, nous apprend qu'il y a une liaison entre le chemin, le voyage, la daina et le gonflement. La daina, la vision et le gonflement sont assimilés à ceux de la lumière diurne, n'est-ce pas? Car effectivement, les Saushyant se propagent, fra-ar, c'est la propagation. Ils sont les acteurs du verbe même, les sujets du verbe même de la propagation de la lumière diurne. Alors, d'où d'ailleurs, puisque la daina et l'aurore, puisque les Saushyant ont intériorisé l'expansion de la lumière diurne, on comprendra que quasi comme une cinquième articulation de l'image, à moins que nous ne devions, je pense, c'est suffisant, y voir une sorte d'autre émanation de daina. On comprend que dans chaque fois que ce motif quadriangulaire est évoqué, l'on trouve l'attestation du nom Chisti. Chisti, indien Chitti, dérivé en ti de la racine chit, qui est le verbe même de l'apparition de l'aurore. Mais attention, avec toujours le même développement, l'apparition de la lumière diurne, sens matériel du mot, mais aussi son sens mental, c'est-à-dire, qui est d'ailleurs présent en védique aussi, c'est-à-dire l'illumination mentale, l'idée, et l'idée que l'on peut avoir, n'est-ce pas? Toujours, nous trouvons devant un univers qui est toujours double, qui est celui de la réalité matérielle des choses, en l'occurrence ici la lumière, l'apparition de la lumière, mais aussi la réalité mentale qui correspond à cette émanation du monde matériel et qui est la formation de l'idée dans l'esprit des sacrifiants. Donc le mot « chitti » de la racine « chit » appartient de plein droit à cette configuration de notions qui termine la Gatha Ahunavaiti. Or, la Gatha se termine avec la strophe 15, et la strophe 15 nous apprend que ce Mishda, ce prix de victoire, pas ce prix, cette récompense consacre le sacrifice réussi, c'est rendre là où, bah, nous revoici avec notre eschatologie, mais comprenons comme nous pouvons comprendre, hein. Chaque gatha se termine par un passage parallèle. Il pose en général des problèmes syntaxiques inextricables. Heureusement, la dernière strophe de la gatha Ahunavaiti a pour nous l'avantage d'être relativement claire. Tout au moins, les relations entre les mots nous apparaissent clairement. Alors, il s'agit donc de pourvoir l'ahu de deux qualités. Ahu est l'état d'existence, un dérivé du verbe être. Et cette récompense finale, c'est que l'ahu soit haïtia. Haïtia. Et fracha. Haïtia, les sanskritistes parmi vous le savent bien, c'est l'indien satya, hein, vrai, la vérité. Bien, mais seulement, il n'est pas résolument assuré que les deux mots aient le même sens. Et le même sens parce que l'usage qui est fait de haïtia repose sur une donnée un peu particulière et que je vous expose rapidement. En avestique. C'est un dérivé secondaire, l'adjectif haïtia. C'est un dérivé secondaire, c'est le dérivé secondaire du participe présent du verbe être, hant. Alors, un participe présent, c'est facile. En principe, on peut traduire facilement, étant. Oui, mais qu'entend-on par quelqu'un qui est étant? Eh bien, en avestique, il semble que ce soit une désignation possible des dieux. C'est discuté, hein, c'est discuté, bien sûr. Mais un hant, quelqu'un qui est, c'est une divinité. Attention, hein, y a pas, n'allez pas faire de la philosophie profonde. Hein. Ce qu'on veut dire par là, c'est quelqu'un dont l'état d'existence est durable, permanent. C'est une traduction possible de Hant, permanent, durable. Il faut que notre état d'existence soit durable, permanent. C'est une des choses que le sacrifice permettrait d'acquérir. Alors, l'autre mot, fracha, nous le retrouverons d'ailleurs dans l'examen des noms propres, ce fracha, ben, je crois que la traduction la plus parlante que nous puissions donner, ce serait parfait. Parfait. Il faut que notre état d'existence soit parfait, soit beau. Hein? Nous avons une belle attestation qui nous permet de comprendre de quoi il s'agit. C'est lorsque Darius, le roi Darius, bien plus tard pourtant, hein, fera construire le palais de Suse. Il fera une charte de fondation où il dit ce que j'ai fait ici à Suse, à savoir toutes ces constructions, c'est quelque chose de fracha, c'est-à-dire formidablement beau, hein, c'est ce qu'il veut dire. Hein, c'est ce qu'il veut dire. On voit bien que c'est une sorte de degré particulier de la beauté. Donc, je crois que c'est un nom qui renvoie à cette idée de beauté intense. Donc, notre état d'existence doit être fracha. Alors, notre problème, hein, est-ce qu'il y a ici dedans allusion à ce que nous connaissons de la doctrine des millénaires, à savoir qu'à la fin des temps, il y a résurrection des corps, et c'est très difficile de le dire avec ce vocabulaire-ci. Il est trop allusif. J'ai des raisons de penser que la doctrine des millénaires n'est pas encore constituée dans les gathas. Je vous les donnerai en temps utile. Mais ce n'est pas sur la base de ces strophes. Enfin, simplement, ce que nous avons ici, c'est une sorte d'aspiration à ce que l'existence, la vie de chacun, se fige dans la lumière diurne. Enfin, c'est une sorte de fixation dans la lumière. Nous ne pouvons rien dire d'autre. Bien sûr, la fixation dans la lumière peut être métaphorique, de l'eschatologie individuelle, du bonheur qui attend chaque âme personnelle, peut être aussi métaphorique de la fin collective, n'est-ce pas, où les corps ressusciteront, bien sûr, mais nous ne pouvons. Le texte ne va pas jusque-là. Et nous essayerons d'aborder, durant ces séries de leçons, ce problème. Par une autre voie d'accès, qui sera peut-être plus efficace. Voilà donc où nous étions. Hein. Nous en étions là. Nous avions vérifié le rite. Ça nous a permis d'isoler un moment particulier où il y a, au fond, où l'on procède aux deux offrandes indo-iraniennes traditionnelles, l'offrande de Hauma et l'offrande, bah, disons, de vache, puisque la vache est la victime sacrificielle par excellence. Et on voit les deux sont articulés, hein, les deux sont articulés, et se procède selon un moment particulier de la journée où le rite est rendu, n'est-ce pas ? Nous avons affaire ici, dans la Gatha Unavaiti, très clairement, à un rite de type auroral. C'est un rite quotidien, c'est le temps quotidien qui est utilisé, hein, et c'est l'apparition de l'aurore qui représente le moment sacrificiel où l'on veut installer les deux offrandes particulières. Donc, voici donc, ce que nous avions essayé d'établir. Je viens de vous le résumer. Maintenant, nous allons, si vous, mais vous allez voir que, à nouveau, comme nous voulions procéder par des éléments particuliers, le rite, l'eschatologie, le personnel humain, auquel nous allons venir maintenant, tout de suite, hein, en tout cas, surtout la leçon prochaine. Eh bien, en définitive, tout cela nous donne un tableau d'ensemble. Tout ça nous permet de faire progressivement une analyse du cursus rituel de chaque gatha. Première observation avec le personnel humain, il nous reste un quart d'heure, nous allons l'utiliser à cela, à une introduction, nous entrerons dans les détails la prochaine fois. Hein, aujourd'hui, nous contenterons de cette introduction générale. Bien, le personnel humain, une nouvelle fois, nous faisons la même constatation. Une fois par gatha, une fois dans chaque gatha, quelle que soit sa longueur, quel que soit le nombre de ses chapitres, fait l'énumération, strophe à la suite l'une de l'autre, strophe par strophe, on évoque les noms de quelques hommes. La liste est plus ou moins longue selon les gathas. La plus courte est celle de la troisième, il n'y a que deux noms. La plus longue est très certainement la liste de la deuxième et celle de la quatrième, c'est la liste la plus complète. Or, ces noms, lorsque nous avons leur succession présente toujours le même ordre. Toujours le même ordre. En premier lieu vient Zarathoustra. Zarathoustra, contrairement à ses compagnons, a le privilège d'être mentionné plusieurs fois dans chaque gatha. Il y a 16 attestations dans l'ensemble des gathas. Il y en a 5, donc faites le compte, cela représente à peu près 3 attestations par gatha. C'est effectivement la ratio, hein. 3 attestations dans la première gatha. La seule divergence se produit avec la deuxième gatha qui le mentionne 5 fois et la troisième qui ne le mentionne que 2 fois. Donc 16 attestations, faites attention parce que, sans doute qu'Éric Pirard et moi calculons très mal, mais nous avons imprimé quelque part dans les textes vieilles avestiques qu'il y avait 15 attestations, il en manque une, c'est celle du Yasna 46-14. Vous pouvez en prendre note si vous voulez faire le travail de référence. Ça n'est pas... Donc 16 attestations. Or, Zarathoustra est donc le premier nom, je vais le noter de manière élémentaire, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un nom propre pour que les éléments constitutifs apparaissent bien. Vous savez qui est, bien sûr, Zarathoustra, selon les données traditionnelles, hein, ce serait donc l'auteur du texte et le fondateur du système religieux nouveau que représenteraient les gathas. Donc Zarathoustra est toujours en tête de liste. Puis il sera mentionné en général 2 fois ailleurs dans le texte, à distance respectable, normalement à distance respectable, je dis bien normalement, il y a des exceptions. Généralement, ça n'entre pas dans la dynamique de l'appellation des noms propres. Le second nom est celui de Vishtaspa. toujours en deuxième place. Vishtaspa est absent de la troisième gatha, sinon il est présent dans toutes les autres. Zarathustra est toujours là. Vishtaspa est absent de la troisième gatha. D'ailleurs, la troisième gatha, d'ailleurs, justement, a pour caractéristique qu'elle se limite aux deux noms que je vais vous donner maintenant. En troisième rang, normalement, se trouve Frashaushtra. Frashaushtra. Et, nous verrons, ça ne fait pas de problème, il s'agit très certainement de son frère ou de son cousin, c'est un parent de Frashaushtra, un certain Jhumaspa. Jhumaspa. De Jhumaspa. Jhumaspa est moins, lui n'est pas toujours mentionné, et il semble que son nom soit mentionné parfois au pluriel, ce qui laisserait penser que c'est à sa famille tout entière que l'on se réfère. Mais nous verrons ça dans le détail pour voir comment s'articulent ces énumérations de noms propres. Je vais dire la liste canonique, hein, c'est celle que l'on trouve de la manière la plus courante et dans cet ordre de succession. Que signifient ces noms ? Ben, ils ont une explication, mais il n'y a pas très longtemps non plus que leur sens a été établi. C'est une chose que je préfère, n'est-ce pas ? Parce que lorsqu'on se réfère parfois à des livres plus anciens, on ne sait pas très bien où se situe le niveau des connaissances. Je puis dire, la plupart de ces noms ont été élucidés dans le courant des années 50. Dans le courant des années 50, entre 1950 et 1964 en tout cas. Le nom de Zarathustra depuis plus longtemps, mais il y a des réticences avec le nom de Zarathustra que je vais vous expliquer. Normalement, il y a une anomalie. Il y a, hélas, ça fait couler des quantités d'encre. Pour la compréhension, ce n'est pas très grave, mais il y a une anomalie phonétique. En réalité, nous attendrions, dans la mesure où le nom est écrit en un seul mot, c'est un composé, mais il est écrit en scriptio continua, hein, comme une seule unité, nous attendrions en réalité Zarathustra. Alors, pourquoi avons-nous une sonore aspirée au lieu d'une... une sourde aspirée au lieu d'une sonore. Il y a toutes sortes d'explications ont été données. Celle d'Éric Pirard et moi était qu'il s'agit d'un phénomène de sandhi, que devant la voyelle U, dans l'état de langue que représente le vieil avestique, le traitement de la dentale finale du premier terme et la sourde aspirée au lieu de la sonore. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un trait phonétique. Pour la compréhension du nom, ça n'a pas grande importance. Normalement, on peut voir dans ce composé une forme dite phéréoïkos, par référence au grec, le nom de l'escargot en grec, phéréoïkos, qui porte sa maison, hein, avec un... un premier terme formé sur une base verbale, sur un thème verbal, et régissant le second membre de composé. Régissant à condition d'être transitif. Or, il peut se faire que le premier terme représente une qualité du second si le verbe n'est pas transitif. Or, justement, nous aurions ici une forme d'un verbe zar, être vieux. C'est l'explication traditionnelle la plus cohérente, ce qui signifierait que Zarathustra serait celui, l'homme dont les chameaux, Ushtra, le nom du chameau, sont vieux. L'homme qui possède de vieux chameaux. Malgré tout, la littérature, pour trouver un autre sens à ce nom, a été considérable par insatisfaction, hein, vous vous rendez bien compte. Pas l'idée centrale dans la tête des gens, c'est « on ne s'appelle pas comme ça ». C'est le grand spécialiste de l'onomastique iranienne, Manfred Mayerhofer, par exemple, n'a jamais admis ce sens-là. Il n'a aucune raison linguistique de mettre cela en doute, c'est simplement une réserve mentale devant la signification du nom. Alors on préférerait essayer de trouver un verbe qui veut dire conduire, le conducteur de chameau, ou trouver un verbe qui se réfère à une couleur, pas quelle couleur, hein. Poser la question d'ailleurs à Claude Vic-Verba qui cherche un nom de couleur, ben, quelle est la couleur d'un chameau, hein, bon. Exactement, mais y a-t-il tant de possibilités, hein. Je crois que nous pouvons rester ici avec notre hypothèse du vieux chameau, hein, l'homme qui a de vieux chameaux. Ça a été justifié par Paul Thiem disant qu'il y a des noms dépréciatifs, c'est pas, il y a des noms, ce qui est d'ailleurs un argument, un indice d'authenticité du nom, car on donne à un enfant un nom qui déprécie sa richesse par superstition, hein, par superstition. Et vous verrez que d'ailleurs les noms dépréciatifs, ils sont nombreux dans la série. Bon, alors Vishtaspa, premier terme serait indien Vishita, celui dont les chevaux n'ont plus leur harnais. On a retiré celui dont les chevaux sont déharnachés. L'homme, les chevaux sont déharnachés. Alors ici, vous pouvez faire de l'interprétation. Pourquoi ôte-t-on les harnais d'un cheval? Vous voyez, pour des choses extrêmement simples, hein, nous nous trouvons devant une certaine palette d'interprétations qui ne sont pas innocentes. On peut rêver, vous savez que là, beaucoup de linguistes se croient une certaine compréhension des choses militaires. J'ai lu dans certains textes que bon, c'est quelqu'un qui détache le cheval de son char pour combattre à cheval. Bon, ce sont des rêves, n'est-ce pas? Ce sont des rêves. Mais ôter les harnais, surtout l'idée d'ôter les harnais d'un cheval, c'est leur peau. Hein, c'est leur peau, bien sûr. Bouge pas. C'est la halte quotidienne. Mais ça peut aussi être la halte eschatologique, n'est-ce pas? Or là, nous avons l'image aussi dans le Rig Veda, n'est-ce pas? Lorsque le chantre dit « conduis-nous au détellement », on dételle parce que c'est une image de la mort. Hein, ça peut être une image de la mort. Cette interprétation entre en ligne de compte, n'est-ce pas? Il faut le voir. Ou bien ces noms sont réels et alors ces noms sont dus au hasard, ou nous pouvons nous interroger sur leur résonance. Mais ici, nous n'avons pas nécessairement un nom dépréciatif, avec Vishtaspa. Frashaustra n'a certainement pas, lui, un nom dépréciatif. Le nom du chameau, comme dans Zarathoustra. Et puis, l'adjectif figure là, c'est Frasha. Parfait, très beau, hein, d'une intense beauté. Donc, c'est celui qui a des chameaux en pleine santé. Ces chameaux, contrairement, vous voyez qu'il y a un contraste, peut-être, hein, établit un contraste. Alors que le nom de l'animal est le même, il peut y avoir un contraste entre les deux personnages. Jamaspa, indien Kshama, brûlé par le soleil. Voilà à nouveau un nom dépréciatif. C'est celui dont les chevaux, comme dans Vishtaspa, ont été brûlés par le soleil, sont déshydratés. Nom qui déprécie aussi ses propriétés. Alors, il faudra tenir compte du fait aussi que ces quatre personnages, qui sont les membres du personnel humain de chaque gata, on précise parfois leur situation familiale, c'est-à-dire le nom de leur père, parfois même aussi le nom d'un ensemble social plus vaste, qui représente on ne sait pas très bien quoi, leur clan ou leur tribu. Nous verrons cela aussi. Mais ce sont donc les quatre noms dont nous allons tenir compte. Je commencerai par là, mais il y aura bien d'autres choses à dire sur l'énumération des noms propres. Il faudra voir à quoi elle correspond, à quel endroit elle se situe dans chaque gata. Et aussi, dans quel cadre on fait cette énumération? Est-ce que pour demander quelque chose ou bien pour faire des constatations? Tout cela est variable d'une gata à l'autre. Et c'est cette enquête que je vous invite à faire d'abord dès la leçon prochaine. Et je vous remercie.